Vous avez eu le courage de changer de lieu. Je pensais que l'attrait de la grande salle et des tableaux allait réduire beaucoup le nombre de notre groupe, mais je vois que vous êtes descendu. Merci, ça m'encourage. Bien que le sujet soit austère, j'y reviendrai dans quelques instants, mais je commence par la lecture de quelques versets. Vous ne vous attendez peut-être pas à ce que je les choisisse, mais vous verrez le rapport à notre sujet sans peine dans le livre de l'Ecclésiaste. Dans le livre de l'Ecclésiaste, je lis dans l'avant-dernier chapitre, le chapitre 11, le verset 9, et puis les deux derniers versets du livre au chapitre 12. Ecclésiaste 11, 9. Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Et puis, les deux derniers versets du chapitre 12, écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'homme. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Prions ensemble. Père Céleste, nous voulons aborder un sujet que ta parole nous présente comme très important. Nous voulons le faire avec droiture, humilité, en percevant de manière juste toutes les connotations de ce que tu veux nous dire. Veuille nous aider, veuille nous ouvrir le cœur, nous t'en prions. Veuille nous donner aussi une entière liberté les uns avec les autres. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Dans une série sur l'espérance chrétienne, n'est-il pas incongru, voire choquant, de faire une place au jugement ? Quand on parle de jugement, et même quand on lit des versets comme ceux que nous venons de relire, il y a comme un petit frisson qui passe dans le dos. Est-ce à cause de cette charge négative que comporte, semble-t-il, le thème du jugement, que la toute récente encyclopédie du protestantisme, un gros volume qui pèse quasiment 5 kilos, n'a aucun article sous le mot jugement? J'ai trouvé que la chose était peut-être significative ou symptomatique. J'espère montrer par mon exposé que le jugement mérite bel et bien d'être considéré comme un objet d'espérance par le croyant. Mais en tout cas, d'emblée, nous pouvons dire que la place que le sujet tient dans l'Écriture nous oblige à porter toute notre attention sur ce qui en est dit. Sans parler du jugement qu'a constitué le déluge, je rappelle que dès Genèse 18, par exemple, Abraham, l'ami de Dieu, appelle Dieu, l'Éternel, le juge de toute la terre. C'est le titre qu'il lui donne dans son intercession pour Sodome, le juge de toute la terre. Le symbole des apôtres, ou encore le credo, si vous préférez, dit de Jésus-Christ, c'est la seule chose dans l'article sur Jésus-Christ qui soit dite en rapport avec l'avenir. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Et cette expression est tout à fait conforme à la Bible. Il y a deux versets dont on entend tout à fait bien l'écho dans cette phrase du symbole des apôtres, dans Actes 10, 42. Il est dit que le Seigneur Jésus viendra pour juger les vivants et les morts. Et encore, dans la première épître de Pierre, curieux, c'est les deux fois, c'est Pierre. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 4 et au verset 5, il est dit que le juge est prêt à juger les vivants et les morts. Je rassemblerai en premier lieu les données bibliques. J'irai, je l'espère, assez vite. Je compte aller assez vite dans ce rassemblement. Et puis en deuxième partie, je vous proposerai des réflexions. En quelque sorte, nous nous servons des données comme d'un tremplin pour essayer de comprendre quelque chose aux voix de notre Seigneur et Dieu. Nous rassemblons les éléments et puis nous essayons de les digérer dans un effort d'intelligence que le Saint-Esprit doit assister, sinon il sera vain, pour vraiment assimiler ce que le Seigneur veut nous dire. Dieu va juger. Cela donc est dit très souvent, je n'ai même pas besoin de préciser dans quel verset vous trouveriez l'affirmation. Il va juger par Jésus-Christ. C'est un point qui est clairement énoncé, par exemple, au chapitre 2 de l'Épître aux Romains, chapitre 2 de l'Épître aux Romains, verset 16, l'apôtre évoque les débats intérieurs que connaissent tous les hommes, qui montrent que même s'ils tentent de l'étouffer, ils ont toujours une conscience. Leurs pensées s'accusent, s'excusent tour à tour, et il dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par le Christ Jésus les actions secrètes des hommes. Donc le jugement est par le Christ Jésus, et dans Jean 5, Jésus lui-même dit l'équivalent, Jean 5, verset 22 et suivant, qui précise que le Père a remis tout jugement au Fils. Jean 5, 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Donc il n'y a aucune contradiction, vous voyez, dans ces versets, entre d'autres passages encore qu'on pourrait citer, ceux très nombreux qui nous disent que Dieu juge, et ceux qui nous disent que le jugement sera celui du Seigneur Jésus, le jugement du Christ. Il n'y a pas de contradiction parce que Dieu juge par Jésus-Christ. Donc on peut dire que c'est Dieu qui juge, on peut dire que c'est Jésus-Christ qui juge. Tout est vrai de ces façons de dire. D'après Matthieu 13, 39, c'est à l'achèvement de l'âge, à l'achèvement du temps, parfois on traduit monde aussi, mais c'est un mot qui signifie d'abord un âge, achèvement de l'âge que le jugement a lieu. C'est dans l'explication de la parabole de l'ivraie que Jésus dit clairement que c'est la fin de l'âge qui est en cause. Sont jugés tous les hommes, des plus petits jusqu'aux plus grands. Et nous devons dire, incroyants et croyants. Cela ressort, par exemple, du passage sur le grand trône blanc du juge, à la fin du chapitre 20 de l'Apocalypse. Tous les morts furent jugés, tous les lieux où leurs restes sont dispersés rendirent ces morts, et tous, donc, comparaissent, et il est clair qu'il y a aussi des croyants parmi eux. Au chapitre 14 de l'Épître aux Romains, verset 10 et suivant, l'apôtre Paul souligne que nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ. C'est donc un jugement qui englobe toutes les catégories humaines. Il y a un élément qui se greffe sur ce que je viens de dire, mais qui est assez énigmatique. Non seulement les croyants sont jugés, nous devons tous comparaître, et puis comme il est dit dans les Galates, chacun portera son propre fardeau, son propre pactage de responsabilité. Donc nous devons tous comparaître et être jugés, mais nous devons aussi, nous les croyants, juger avec le Christ, être associés de manière active à ce jugement. Il n'y a pas beaucoup de passages qui évoquent ce thème, mais dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, au chapitre 5-6 en fait, c'est là qu'il discute de certains d'autres troubles dans l'église aux Corinthiens. C'est au chapitre 6 que se trouve le verset précis que j'ai en tête. Pour faire honte aux Corinthiens de ce qu'ils vont devant les tribunaux païens, au lieu de régler leurs affaires entre eux, lorsqu'ils ont des litiges, l'apôtre leur dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Vraiment étonnant. Mais c'est dit, c'est clairement enseigné par l'apôtre Paul. Non seulement tous les humains seront jugés, mais aussi les anges. Je pense qu'il s'agira, en tout cas principalement d'abord, des anges révoltés. Satan et sa suite, et ses troupes. Mais il est étrange qu'il soit dit, nous jugerons nous, les croyants, les anges. Je crois qu'il faut comprendre que nous sommes tellement unis à Jésus-Christ, qui est le juge, que nous participerons à tout ce qu'il fera. Vraiment, nous sommes indissociables maintenant de lui. Il a créé un lien qui ne peut plus être coupé pour rien. Nous sommes son corps. Et s'il juge lui, nous lui serons aussi associés, jusque dans cette responsabilité étonnante. Il est aussi question des trônes sur lesquels s'assoient, pour le jugement, ceux qui ont été témoins fidèles du Seigneur Jésus, au chapitre 20 de l'Apocalypse, dans un passage qui est l'objet d'interprétations divergentes sur lesquelles nous reviendrons la fois prochaine. La fois prochaine, ce sera sur le règne, et la question dite du millénium sera abordée. Nous reverrons ce passage. Mais lui aussi évoque une activité de jugement qui est remise au sein du Très-Haut, au peuple de Dieu lui-même. Le jugement se fait, cela est dit et répété, et par exemple se retrouve dans Apocalypse 20, selon les œuvres. Le jugement de Dieu se fait selon les œuvres de chacun. Il s'agit de rétribution. Dieu, au chapitre 51 de Jérémie, s'appelle même un Dieu de rétribution. Jérémie, chapitre 51, use d'un tel titre pour le Seigneur, parce que c'est un exercice de la justice. Il est le Dieu de justice que la rétribution. Cependant, et c'est là que les choses deviennent un petit peu plus subtiles, la destinée qui sera assignée par le verdict du juge ne dépend pas, semble-t-il, des œuvres, mais de l'inscription dans un autre livre, dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, que nous aurions pu lire, mais vous l'avez, j'espère, suffisamment en mémoire. Il est dit que des livres furent ouverts, les livres où se trouvaient toutes les œuvres de tous les hommes. Leur vie est inscrite, en quelque sorte, c'est le grand livre des comptes de Dieu. Et donc, pour être jugés selon leurs œuvres, ils sont jugés d'après ce qui est écrit dans les livres. Apocalypse 20, verset 12, les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. Mais le texte nous précise qu'il y a un autre livre qui fut ouvert. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et le verset 15 conclut le passage en disant « Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Avec cette image des livres, parce qu'évidemment, il ne faut pas, je pense, pour le ciel, pour un monde purement spirituel, avoir une représentation quand même trop matérielle de ces livres de Dieu. Avec cette image des deux livres différents, oui, le livre des œuvres et le livre de vie, et l'indication que pour le destin final, c'est l'inscription dans le livre de vie qui compte. Je crois que nous avons la bonne articulation des éléments bibliques. Il y a un jugement, et de tous, selon les œuvres, y compris les croyants. Mais l'inscription dans le livre de vie garantit, si j'ose utiliser ce verbe, que celui même dont les œuvres ne seront pas parfaites et qui se trouverait du coup condamné par la justice divine sera sauvé par l'inscription, n'est-ce pas, dans le livre de ceux qui ont adhéré à Jésus-Christ et pour qui Jésus-Christ a entièrement payé la dette à l'égard de la loi. Et c'est ce qui nous permet d'expliquer l'apparente contradiction, ce n'est qu'une apparente contradiction, des textes qui nous disent clairement que les croyants seront jugés, et puis des textes qui nous disent que celui qui croit en Jésus est passé de la mort à la vie, qu'il ne vient pas en jugement. Il ne vient pas en jugement en ce qui concerne la vie éternelle. Il l'a reçu, c'est fait, parce qu'il est inscrit dans le livre de vie. Mais il faut cependant que ses œuvres soient examinées. Et dans ce sens, il passe en jugement. Cette dualité permet d'expliquer les deux façons de dire qui sont l'une et l'autre dans l'Écriture. Alors pourquoi y a-t-il jugement selon les œuvres, alors que pour la vie éternelle, c'est l'inscription dans l'autre livre qui compte? Pourquoi? Dans nos réflexions, nous essaierons d'aller un petit peu plus loin, mais je signale tout de suite que la Bible nous enseigne une gradation des rétributions, aussi bien du côté de ceux qui seront perdus parce qu'ils n'auront pas cru en Jésus-Christ, et de ceux qui seront sauvés parce qu'ils ont cru à Jésus-Christ. Il y a les deux destinées, mais pour chacune des deux destinées, il y a une diversité, une gradation qui est selon les œuvres. Et le Seigneur Jésus a dit clairement, par exemple, dans une parabole, c'est dans Luc 12, versets 47 et suivants, que celui qui aura transgressé les commandements de son maître, sans les connaître bien en tout cas, sera frappé d'un petit nombre de coups, et que celui qui aura bafoué ses commandements en les connaissant bien, sera lui frappé d'un grand nombre de coups. Il y a une échelle de responsabilité en fonction de la connaissance. Et nous trouvons ce même principe dans le chapitre 2 de l'Épître aux Romains, qui est un chapitre très important pour le thème du jugement, qui nous dit que ceux qui auront péché sans la loi de Moïse, périront sans la loi. Ce qui servira pour les juger, c'est la loi de leur conscience, inscrite dans leur cœur, mais comme elle est moins précise, moins nettement dessinée que la loi de Moïse, alors il y aura quand même une moindre culpabilité qui s'attachera aux actes. Et que ceux qui auront péché avec la loi, alors qu'ils avaient ce privilège, seront jugés avec la loi plus sévèrement. Et le même principe est encore énoncé dans l'Épître de Jacques, lorsqu'il dit, au début du chapitre 3, qu'il ne doit pas y avoir dans une église beaucoup de gens qui enseignent. Ah oui, c'est une parole solennelle pour moi, parce que nous serons jugés plus sévèrement. C'est sûr que les privilèges que j'ai, et en fonction desquels vous me confiez la tâche de vous parler aujourd'hui, sont des privilèges qui accroissent la responsabilité aux yeux de Dieu. Et le jugement sera gradué en proportion. Mais du côté de la vie éternelle aussi, d'ailleurs si Jacques parle des prédicateurs, on peut penser quand même que la plupart au moins sont inscrits dans le livre de vie, qu'ils ont bien la vie éternelle. Alors là, c'est la question des récompenses qui est en cause. Et le passage qui développe le plus, c'est celui de la 1 Corinthiens chapitre 3, qui parle de la valeur de toute l'activité d'une vie chrétienne, d'une vie où l'on bâtit sur le fondement qu'est le Seigneur Jésus lui-même. On peut bâtir avec des matériaux de qualité. On peut bâtir aussi à la va-vite, mû par une ambition personnelle ou paresseux, ou peut-être à cause de différends avec des frères et sœurs. Enfin, toutes les choses de peu de valeur qu'on peut imaginer peuvent servir à bâtir la conduite d'une vie. Et l'apôtre dit que au jour du jugement, le feu du jugement éprouvera l'œuvre de chacun. Qu'est-ce que ça vaut? Si c'est une vie qui a été construite avec un matériau de qualité, elle tiendra le coup. Le feu passera et l'œuvre tiendra. Et celui qui aura une telle œuvre recevra sa récompense. Mais celui qui aura bâti une bicoque avec des bouts de bois, on va dire des boîtes de camembert pour aller dans le sens d'une publicité qu'on entend à la radio, les boîtes de camembert allégées, et comme dit l'apôtre, du foin, la paille, le feu fera disparaître tout ça. Une vie qui n'aura pas valu grand-chose aux yeux de Dieu. Eh bien, Paul dit de celui-là qu'il perdra sa récompense, mais qu'il sera sauvé, lui, comme au travers du feu. Comme ce n'est pas sur la base de nos œuvres que nous sommes sauvés ou perdus, le fait d'avoir mené une telle vie tout en étant chrétien ne fait pas perdre le salut. Mais il y a une différence qui s'exprime dans le jugement. Pourquoi le jugement doit aussi être selon les œuvres? Alors évidemment, ce n'est pas très facile à imaginer en quoi pourra consister concrètement la différence des récompenses. Là aussi, faisons attention de ne pas tomber dans des représentations trop terrestres. Nous pourrons en reparler peut-être lorsque nous parlerons de l'état final. Mais je mentionne pour le moment cette donnée biblique qui est sûre. Je pourrais peut-être aussi mentionner quelque chose qui m'a frappé alors que je me préparais pour ce matin. Jésus a beaucoup insisté sur les paroles comme devant être prises en compte au jugement. Matthieu, chapitre 12, versets 36 et suivantes. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. C'est fort. Jésus va vraiment là, très très loin. C'est dans le passage où il dit aussi que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il me semble que s'il insiste tant sur ses paroles, notre Seigneur ici, c'est pour deux raisons qui risquent de nous échapper, si nous n'y prêtons pas attention. La première, c'est la redoutable efficacité des paroles. Contrairement à ce que nous imaginons trop souvent, quand nous disons les actes, oui, là, c'est tangible, les paroles peuvent faire des dégâts prodigieux. On peut ruiner une vie par une parole. Soit une parole de dureté, soit une parole de mensonge. Toute parole indigne peut vraiment faire plus mal que bien des actes. Donc nous avons, je pense, à penser à cela. Le livre des Proverbes dit, il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Souvent, oh ben j'ai dit ça, j'étais énervé. Ou bien, bon, voilà, bon, tout le monde parle comme ça. Nous nous excusons aisément des paroles vaines et négatives. Or, le Seigneur Jésus met le doigt sur la difficulté. Rappelons-nous l'importance des paroles. Puis deuxième raison, celle qui correspond au contexte dans ce passage, nos paroles nous trahissent ce qui est à l'intérieur. On réussit relativement à se comporter quant aux gestes, quant aux actes, on se maîtrise, mais les paroles, ça finit toujours par passer, ce qui est à l'intérieur. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Ce dont le cœur est plein, ça sort, d'une façon ou d'une autre. Et là aussi, le même passage de Jacques que j'évoquais au début du chapitre 3, dit « Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. » Nous bronchons tous, et de plusieurs manières. Nos paroles sont la preuve que nous restons pécheurs et qu'il y a des choses en nous qui ne sont pas belles. Pratiquement, si on prend toutes les paroles prononcées au cours d'une vie, bon, bien sûr, pas forcément en public, au tabernacle, mais si on prend toutes les journées du matin au soir, bon, nous devons l'avouer. Et Jésus, donc, insiste là-dessus. Le jugement, toujours donnée biblique que je rassemble, le jugement est dit dernier au jour du Seigneur, qui est précisément son jour parce qu'il y règle ses comptes. Le thème du jour de l'Éternel, au jour du Seigneur, c'est la traduction pour l'expression de l'Ancien Testament, est très très lié à l'idée que là, Dieu, après avoir patienté longtemps, amène la conclusion et règle ses comptes. Le jour du Seigneur, c'est vraiment un jour de jugement. Alors certains chrétiens évangéliques croient devoir fractionner dans le temps les jugements. Avoir un premier jugement pour les croyants seuls, quand le Seigneur revient, avoir un jugement collectif pour les nations, selon Matthieu 25, après la grande tribulation et avant le millénium, et le grand jugement final à la fin. Alors comme c'est essentiellement la question du millénium qui les conduit à fractionner de tels jugements. Je n'entre pas dans le débat aujourd'hui, nous y viendrons plus tard, mais je signale simplement que rien dans les textes sur le jugement ne suggère que les jugements de croyants et les jugements d'incroyants, par exemple, sont dissociés dans le temps. Si on est sûr qu'il faut placer un intervalle à la suite de la lecture d'autres textes, bon, on pourra dire, il arrive que la Bible présente comme des choses qui se passent en même temps, des éléments qui sont en fait détaché dans la séquence. Donc on pourra raisonner comme ça. Mais si on prend juste les textes sur le jugement, je crois qu'on doit dire que rien ne suggère qu'ils soient séparés dans le temps et que donc il faudra de bonnes raisons pour les dissocier si on les dissocie. Moi je ne le fais pas. J'anticipe sur la séance suivante pour dire que je ne vois pas de raison suffisante pour faire de telles dissociations. Cependant, si le jugement est final au jour du Seigneur, il y a nettement aussi dans l'Écriture le thème d'une anticipation de ce jugement. Anticiper, c'est prendre déjà à l'avance quelque chose. Il y a une anticipation du jugement qui me semble triple. Alors, je mentionne cela pour achever sur le rassemblement des données bibliques. Il y a l'anticipation de la mort pour ceux qui mourront avant le retour du Seigneur. Il y a, semble-t-il, une sorte de préjugement. Est-ce qu'il est formalisé par Dieu ? Ne semble pas, à moins qu'on comprenne 2 Corinthiens 5, 10 dans ce sens, vont tous comparaître devant le tribunal du Christ. Je pense pour ma part que c'est plutôt le jugement dernier, donc ce n'est pas ce jugement au moment où nous quittons le corps et nous trouvons avec Christ, mais il est clair en même temps que les deux destinées sont déjà tout à fait décidées au moment de la mort et qu'il y a un avant-goût de la destinée finale, celle qui sera donc assignée dans le jugement dernier, aussi bien pour les impénitents que pour les croyants. Les impénitents sont gardés en vue du jugement, comme dit la seconde épître de Pierre, chapitre 2, et la parabole de Lazare et du mauvais riche le montre aussi. Ils souffrent déjà, mais en vue du jugement. Ils sont gardés, emprisonnés en quelque sorte pour cela. Et d'autre part, alors les croyants sont avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, même si ce n'est pas encore le salut dans toute sa plénitude, parce que le corps n'y a pas encore part. Ils sont avec Christ et ils règnent et vivent avec lui. C'est, me semble-t-il, ce qui ressort de plusieurs passages. Donc, il y a là une sorte d'anticipation. Avant que le jugement soit prononcé, déjà, les deux grandes voies sont déterminées. Il y a anticipation du jugement dernier dans les événements historiques de jugement. On voit en particulier dans l'Ancien Testament que précisément avant le grand jour de l'Éternel, tout au bout, il y a des jours de l'Éternel. Le jour de l'Éternel contre l'Égypte, par exemple, où Dieu conclut une période de l'histoire, où il règle ses comptes avec un pays, une collectivité. Donc ces jugements sont comme des préfigurations du jugement final. Dans le Nouveau Testament, le jugement de Jérusalem en 70 au 1er siècle nous est clairement présenté comme une figure du jugement final. D'autant plus que je pense qu'on peut dire que la communauté d'Israël représente l'humanité, que ça fait partie du sens même de l'élection d'Israël. Donc il y a de tels jugements dans l'histoire. Alors une question se pose, j'ai lu une fois, je crois que c'était chez Jacques Maritain, mais je n'ai pas retrouvé ma citation, j'ai essayé de regarder en me préparant, je n'ai pas retrouvé, je crois que c'était de lui, que pour les collectivités, le seul jugement, c'est le jugement qui a lieu dans l'histoire, puisque le jugement final est un jugement individuel. C'est une idée intéressante, mais je n'oserais pas aller jusqu'au bout, dire que c'est le seul jugement, parce qu'il me semble trop manifeste que Dieu ne juge pas les collectivités d'une manière complète, conforme à une rétribution équitable dans le cours de l'histoire. Il y a des collectivités, des nations, je pense aux Arméniens par exemple, qui ont souffert dans l'histoire d'une façon qui ne semble pas du tout correspondre à un plus de culpabilité par rapport à d'autres nations. Donc, je dirais pour ma part qu'on ne peut pas de toute façon séparer la culpabilité des collectivités de la culpabilité individuelle. Les communautés, les nations, les villes, etc. sont faites d'individus. Et pour la dimension collective de la culpabilité, le jugement dernier, à propos des individus, va aussi juger. La part de faute que nous avons dans les errements de notre pays, dans des fautes que la nation française commet collectivement, parce qu'elle en commet aussi. Je pense que cette part-là sera incluse dans le bagage individuel. Selon que l'individu, puis Dieu seul peut vraiment le juger, l'appréciera. Mais c'est quand même intéressant de noter qu'il y a aussi des jugements dans le cours de l'histoire et qui affectent principalement les collectivités. Et Dieu fait tous ses comptes lorsque un jugement a eu lieu dans l'histoire, sans doute, cela compte aussi au moment où il détermine les choses au jugement dernier. Et puis, troisième anticipation, la plus importante à coup sûr, c'est l'anticipation du jugement face au Christ, face à l'offre de salut. Et c'est un thème qui est spécialement marqué dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, Jésus souligne que le jugement a déjà lieu en sa présence. Le prince de ce monde est déjà jugé, et celui qui choisit les ténèbres plutôt que la lumière, quand la lumière vient jusqu'à lui, en la personne de Jésus, il est déjà jugé. Parce que les choses se décident là, pour l'éternité. Donc il y a une anticipation dans la décision prise face à Jésus. On pourrait évoquer d'ailleurs à ce propos un cantique très saisissant. Il est plutôt un cantique pour solo, donc on ne le chante pas souvent, c'est un cantique qu'a écrit mon père. Au tribunal, Jésus se tient épuisé, seul et sans soutien. Pilate, le peuple, dit soudain, que ferez-vous de Jésus? Que feras-tu de Jésus? Il se tient devant toi. Là, c'est toi qui as l'air de juger. Un jour, tu diras, plein d'effroi, que fera-t-il de moi? Ce cantique qui est dans la Toile à gloire évoque cette situation où, dans le jugement que nous prononçons face à Jésus, nous le reconnaissons comme Seigneur ou nous le rejetons, ce qui veut dire en fait que nous le traitons de menteur, hein, que dans ce jugement se décide ce qui sera l'affaire du jugement ultime, sauvé ou perdu. Voilà donc un ensemble de données bibliques. Alors maintenant, quelques réflexions que je vous propose à cet égard, concernant donc le jugement. Il me semble qu'on peut dire d'abord que le principe même du jugement, c'est la manifestation. Ce n'est pas pour rien que c'est au jour du Seigneur que le jugement se place, parce que le jugement, c'est en fait la venue au jour de la vérité de toute notre vie, de tout ce que nous en aurons fait, tout ce que nous en faisons et en aurons fait. C'est la vérité des actes et des mouvements intérieurs, aussi bien que de ce que les autres humains ont pu voir. Il y a une insistance, Dieu jugera les actions cachées. Dieu amène tout en jugement, ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Nous ne pouvons pas juger, parce que nous ne sondons pas les reins et les cœurs. L'homme regarde à l'apparence. Qui peut faire autrement? Nous ne pouvons pas. Nous devinons parfois, mais ce n'est pas très sûr. Dieu regarde au cœur. Et le jugement, c'est donc le voile qui se lève sur ce qui a été la vraie réalité de la vie des uns et des autres. La venue au jour, alors qu'il règne la nuit ou le crépuscule, dans le cours de l'histoire, parce que Dieu patiente, c'est pour ça qu'il y a cette situation mélangée, cette situation indistincte, mais il faut que ça se voit, que ça se manifeste. Il n'y a rien de caché qui ne doive être mis en lumière, dit le Seigneur Jésus. Et le jugement correspond à cette nécessité. On pourrait dire que le jugement, c'est l'apocalypse de la vie. Le mot apocalypse veut dire dévoilement. C'est l'apocalypse de la vie. Et par rapport à ce que nous avons dit tout à l'heure, des œuvres et du livre de vie, je pense qu'on peut dire que le jugement fera apparaître, d'abord, ce que nous avons fait, avec les motivations. Et ce sera parfaitement juste. Mais aussi, qu'un tel et un tel et une telle ont mis leur vie dans les mains, dans les bras de Jésus-Christ, qu'ils n'existent plus par eux-mêmes, en quelque sorte, devant Dieu, mais sous couvert de Jésus, joint à ce chef qui les couvre. C'est ce que fera apparaître le jugement, parce que c'est la vérité de la vie. La vie sera manifestée, selon ce qui est vrai. Et, entre parenthèses, cela nous montre que toute crainte par rapport à la justice du jugement peut être bannie. C'est forcément l'exacte justice, puisqu'en fait, c'est la manifestation de la vérité. Selon les dosages exact avec les mélanges de sentiments dans lesquels parfois nous ne nous retrouvons pas nous-mêmes, exactement perçu, démêlé, tout cela sera manifesté en vérité. C'est le premier point sur lequel j'ai voulu insister. Deuxième réflexion, le jugement signifie, qu'il y ait un jugement, signifie que la réalité globale, le monde, mais pas au sens des hommes hostiles, la réalité universelle créée, correspondante à la création de Dieu, n'est pas neutre ou indifférente. S'il n'y avait pas de jugement, ça voudrait dire que chacun a sa conscience, mais que la réalité ne sanctionne pas, qu'elle ne réagit pas, qu'elle laisse passer aussi bien les crimes que les actes de générosité, les mensonges que les sacrifices, etc. Que la réalité est indifférente. Qu'il y ait un jugement proclame que tel n'est pas le cas. À cause de la patience, ça peut sembler le cas. On se dit, mais enfin, rien ne se passe. Ceux qui commettent des crimes s'en tirent. La police arrive 10 minutes après, il n'y a plus personne et ils ne sont jamais retrouvés. Enfin. Mais ce n'est qu'une apparence trompeuse. En fait, la réalité réagit. Et de même, on se fait mal quand on bafoue les lois de la physique. Si on se lance à 50 à l'heure contre un mur, ça fait mal. De même, ça fait mal que de se heurter au mur de la justice, de la bonté, de la vérité, qui sont des réalités, des normes qui existent dans l'univers réel. Le jugement signifie juste le contraire de ce que dit une phrase dans le livre d'Albert Camus, L'étranger. Vous vous rappelez que l'étranger, c'est ce gars qui, d'ailleurs, je ne sais pas très bien comment il est motivé, ça fait partie des énigmes du livre, mais a tué comme ça un arabe sur la plage. Il était ébloui par le soleil, il l'a tué. Alors il se fait emprisonner. Il n'a aucun sentiment de culpabilité véritable. Il va être condamné parce qu'il ne sait pas se défendre du tout. Et puis, devant être exécuté, la peine de mort était appliquée à l'époque, il s'abandonne à la tendre indifférence de l'univers. C'est la phrase de Camus. La tendre indifférence de l'univers. Mais non, justement. Le jugement qu'atteste l'Écriture nous montre qu'il n'y a pas indifférence, mais au contraire, souci du juste et du bien. Et celui qui a lésé l'autorité du juste et du bien, ça lui retombe sur la tête. Il y a une réaction, un effet boomerang. Et c'est là, en tout cas, une première considération qui nous montre que le jugement doit être objet d'espérance. Parce que c'est un message de réconfort pour les victimes, pour tous ceux qui ont faim et soif de justice. C'est vraiment une chose horrible qui accroît la souffrance que de penser que les bourreaux, ceux qui torturent, finalement, rien ne va s'en suivre pour eux. Ils peuvent impunément faire tout ça. Quand on pense à la place de la torture dans l'histoire du monde, toute cette accumulation d'iniquités, si l'on considère les victimes, mais c'est une pensée très, très insupportable, qu'il n'y aurait pas de jugement, qu'il n'y aurait pas de redressement de la justice. La promesse nous est faite que Dieu fera valoir la justice, établira son autorité par le jugement. Si nous attendons une nouvelle terre où la justice habitera, c'est parce que justice aura été faite au jugement. Voilà une deuxième considération sur le sens du jugement. Puis j'en ai encore une troisième. Parce qu'il n'y a pas seulement jugement, il y a juge. Le jugement, c'est, si je puis dire, la réaction de l'univers, mais ce n'est pas simplement l'univers, précisément. Ce n'est pas comme dans l'univers physique, où quand on se cogne dans un mur, bon, ben ça fait mal, il y a le choc en retour, etc. Et là, ça se produit tout au long, Le jugement, c'est un jour qui est fixé pour le jugement, avec un Dieu qui le prononce, le jugement. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cela ? Ça veut dire que la réaction n'est pas la réaction d'une machine, même judiciaire. Ce n'est pas un mécanisme compensateur, c'est la décision vraie, conforme à la vérité d'un Dieu personnel. Et non seulement c'est un Dieu personnel qui juge, mais c'est Dieu par Jésus qui est venu à nous, que nous connaissons. Le visage du jugement, c'est le visage de Jésus, tel qu'il s'est fait connaître à nous. C'est cela qui doit chasser la peur de l'amour. L'amour bannit la peur, parce que la peur redoute le jugement, dit la première épître de Jean, vous vous rappelez. C'est quand nous connaissons le juge qu'est Jésus, que nous pouvons chasser la peur du jugement, même en sachant que nos œuvres, et ce ne sera pas très joli, souvent, seront mises en lumière, seront parfaitement mesurées, jugées, nous n'avons pas à avoir peur. Subsiste la crainte, respect, le sérieux responsable, mais uni à ce juge, nous n'avons pas à redouter le jugement. Et nous pouvons, dès cette vie, connaissant sa miséricorde, nous mettre au diapason de sa miséricorde, qui jouera aussi dans le jugement. C'est un jugement miséricordieux, tout en étant juste, qu'il exercera, puisqu'il est miséricorde. Et au diapason de sa miséricorde, nous sommes rendus capables d'exercer, dans une certaine mesure au moins, la miséricorde nous-mêmes, avec un verset remarquable de l'épître de Jacques, que je veux lire, enfin deux versets, 2, 12 et 13. « Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » La miséricorde triomphe du jugement. Un très beau passage qui nous montre de quelle façon nous avons à considérer la perspective du jugement pour nous-mêmes, objet de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Pénétrer cette miséricorde, capable d'en éprouver les mouvements par l'Esprit de Jésus qui est en nous, alors nous n'avons pas à craindre le jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Et même la traduction triomphe, je trouve qu'elle ne rend pas tout de l'original, mais je vous indique ce qui est dans l'original. La Bible de Jérusalem traduit « la miséricorde se rit du jugement ». C'est un verbe étonnant ici. C'est un verbe qui évoque la vantardise, quelqu'un qui se vante au dépens de quelqu'un d'autre. La miséricorde est tellement assurée d'être vraiment la vie de Jésus en ceux qui lui appartiennent, qu'elle peut faire comme la fanfaronne, cette miséricorde, face aux perspectives du jugement. Celui qui est en Jésus ne craint aucune contrainte. Et même pour toutes ses œuvres, il sait que c'est le Seigneur Jésus qu'il aime et qu'il aime. C'est le Seigneur Jésus qui est le juge. Voilà la perspective que ce verset nous donne et qui nous fait comprendre alors comment lire les versets de l'Ecclésiaste. Jacques 2, versets 12 et 13. Comment lire les versets de l'Ecclésiaste? Je crois qu'il y a une façon tout à fait fausse de les lire. Mais elle peut nous venir à l'esprit quand nous lisons. La façon fausse de les lire, c'est de dire « Dieu prend un malin plaisir, presque sadique, à suspendre une épée de Damoclès sur tous nos plaisirs. » Ah, vas-y, jouis de la vie, jeune homme, mais sache quel jugement. Comme pour jeter une ombre déplaisante sur tout plaisir qu'on peut goûter. Je crois que pas mal de gens lisent ces versets comme ça, mais je suis sûr, appuyé sur l'ensemble de la Bible, que ce n'est pas comme ça qu'il faut lire. C'est un thème dans tout le livre de l'Ecclésiaste qui est important, qu'il convient aux croyants, parce que c'est une expression de son humilité et de sa confiance en Dieu, de jouir des biens de la création. de jouir de ces choses bonnes que Dieu donne, parce que Dieu veut que l'homme en jouisse. Donc ce n'est pas du tout pour dire « ah vas-y, mais » que l'Ecclésiaste parle comme il le fait à la fin du livre. C'est plutôt pour nous indiquer que toute notre vie doit être vécue dans, avec le sens de la responsabilité. Toujours, oui, de la responsabilité des fils et des filles de Dieu qui veulent se présenter à leur Père et Seigneur avec une vie qui aura valu la peine d'être vécue. Là, je vous encourage à comprendre de cette façon les versets de l'Ecclésiaste, ce qui veut dire avec espérance. Voilà donc les pensées que j'avais mises en note pour vous les communiquer. J'espère donc vous transmettre bien le contenu de la parole de Dieu même. Alors maintenant, nous avons encore jusqu'à un quart d'heure pour le moment de questions. Monsieur Christian Dougou.
Oui, j'aimerais entendre dire ou préciser la chose suivante. La Bible dit que ceux qui n'ont pas eu connaissance du salut, par grâce, à travers la lecture ou l'information de la part de Dieu, ceux-là seront jugés selon leurs œuvres, au travers de leur conscience. Qui dit jugement, dit condamnation ou salut. Dans la gradation des choses, tu t'es entendu prononcer, à la lumière de la parole de Dieu, le mot salut pour ces gens-là, s'il y a la possibilité de salut. Du fait que Dieu est en juste, ils n'ont pas eu connaissance.
Alors, dans l'Épître aux Romains, donc le passage que Dougou évoque à nouveau, se trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 2, et puis continue au chapitre 3, je crois que la perspective d'un salut grâce aux œuvres que les païens peuvent faire conformément à la loi de Dieu inscrite en leur cœur, cette perspective est rigoureusement absente. L'apôtre a l'air de considérer que pour tous les humains, tous les païens, en fait, le bilan est négatif. Il y aura moins de sévérité pour ceux qui n'auront pas eu la loi de Moïse, la révélation spéciale pour les guider, mais il ne semble pas envisager qu'il y ait parmi eux de personnes sauvées. Tous enfreignent de quelque façon cette loi de Dieu. Il suffit de la moindre égratignure, pourrait-on dire, pour parler d'une manière humaine, c'est déjà une insulte au Dieu créateur et au Dieu vivant, au Dieu saint, et c'est d'une infinie gravité si l'on considère contre qui même un petit péché est commis. Et l'apôtre Paul conclut en disant ça, « Quoi donc ? Sommes-nous supérieurs ? Absolument pas, chapitre 3, verset 9, « car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, c'est-à-dire non-juifs, païens, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, et puis il continue la citation, nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, et donc la loi sous ses deux formes, écrite dans le cœur ou extérieure. Donc, premier point, c'est juste le premier point de ma réponse, je ne sais pas, il vaut mieux que j'attende quand même, Marilène, que je te donne la parole après qu'avoir... répondu. Non, je crois qu'il vaut mieux que je réponde. Donc, là, je viens de lire chapitre 3, verset 9, puis en sautant jusqu'au verset 20. C'est tout le passage de l'Épître aux Romains. Donc, premier point à la réponse. D'après ce que ces deux chapitres indiquent, je crois qu'il n'y a aucune ouverture du côté de la justice des œuvres accomplies, du fait d'une certaine connaissance de ce que Dieu exige, soit dans la loi de Moïse, soit dans la loi imprimée au cœur. Cependant, à mon avis, c'est ma deuxième partie de ma réponse, cela ne veut pas dire que des gens qui n'ont pas entendu un missionnaire, qui n'ont pas eu un exemplaire de la Bible, ou qui n'ont pas eu un traité entre les mains, soit forcément perdu. C'est-à-dire que je réponds là brièvement, et puis je pourrais développer encore dans la suite, si vous le voulez. Je crois que Dieu a d'autres moyens qui permettent au salut, qui est par Jésus-Christ, et par Jésus-Christ seul, pas par les œuvres d'obéissance, qui permet au salut d'atteindre des gens qui ne sont pas atteints par les missionnaires ou évangélistes, etc. Alors, c'est tout un raisonnement théologique qui m'y conduit. Ce n'est pas donc très facile à prouver, il n'y a pas juste un passage biblique qui permet de le dire, comme ça, c'est sûr. Mais en même temps, ce n'est pas une opinion qui soit juste la mienne, c'est une opinion qui est bien représentée, elle n'est pas unanime, mais bien représentée parmi les théologiens évangéliques de notre temps. Il y a en particulier, il était juriste d'abord, mais aussi bon théologien, un professeur de l'Université de Londres, évangélique, très, très lié au groupe biblique universitaire, qui a écrit sur ce sujet plusieurs ouvrages, c'est bon connaisseur de diverses religions, J.N.D. Anderson, Sir Norman, c'est le N qu'il choisissait comme prénom, pour son prénom, Anderson, qui a à peu près la même option que je viens de dire, qui est la mienne. Voilà le deuxième élément donc de ma réponse.
C'est difficile dans une discussion de présenter un Dieu d'amour et un Dieu juste. Et la question vient, c'est ceux qui attendent les âges n'ont pas du tout la connaissance et n'ont pas la réponse. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par la scène de Pierre dans
première vie de Pierre. Oui. Oui. Oui, verset 6, c'est ça. Oui. Alors, c'est vrai que ce sont des versets qui. Ce sont des versets qui entrent dans le débat en cause. Je peux dire brièvement comment je les comprends. En fait, pour moi, ils n'ont pas de véritable pertinence pour le sujet. Donc. Bizarre, on entend ce... bon, c'est ce que je voulais supprimer comme bruit. Alors, je vous dis très brièvement, c'est une sorte d'excursus, mais comme ces textes sont souvent cités, c'est bien que nous les voyons, comment je les comprends. Donc, dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, nous avons donc un passage qui exhorte à la patience dans la souffrance, et le texte continue au verset 18. En effet, Christ aussi est mort pour une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour où Noé construisait l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent, par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ, etc. Et puis alors au chapitre 4 qui suit, il est question des païens qui trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux vers la débauche et qui vous calomnie. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, le verset que j'ai cité tout à l'heure. C'est pour cela, en effet, que les morts aussi ont été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Alors, sur la base de ces deux passages, qui sont proches dans l'épître de Pierre, certains se sont dit, les morts, donc, qui se trouvent dans le séjour des morts, qui ne s'étaient pas convertis durant leur vie, qui n'avaient pas entendu l'évangile et mis leur foi en la grâce de Dieu pour le salut, ont une seconde chance. Certains d'entre eux, au moins, en ont eu. Ils ont été évangélisés pour pouvoir être sauvés quand même. Après leur mort, Jésus en esprit est allé leur prêcher, comme dit donc le premier passage. Vous voyez, ces versets ont été utilisés pour fonder la théorie d'une seconde chance et d'une seconde chance pour ceux en particulier qui n'avaient, semble-t-il, pas eu une première chance pendant le cours de leur vie. Alors, je vous dis que moi, je ne crois pas que ce soit une bonne lecture de ces passages. Je ne peux pas entrer dans le détail de l'interprétation à ce propos. Que dans le premier passage, Jésus est allé en esprit prêcher à ses esprits, non pas quand ils étaient en prison, après leur mort, mais au temps de Noé, avant leur mort. Et il a été en esprit en la personne de Noé. Pierre, dans cette première épître, souligne que ceux qui ont parlé, les prophètes dans l'Ancien Testament, le faisaient par l'Esprit du Christ. 1 Pierre 1, verset 10 ou 11, je ne sais plus. Oui, c'est 11. Donc, Pierre souligne que c'est l'Esprit du Christ. Et moi, je comprends ce verset de la manière suivante, mais ensuite, je ne suis pas seul, que les croyants doivent prendre courage en voyant, d'une part, ce qui s'est passé à la croix et la résurrection de Jésus, mais aussi à une époque antérieure où le messager de Dieu, qui parlait par l'Esprit de Christ, donc Christ en quelque sorte exhorté par lui, a essuyé les rebuffades de ses contemporains. Noé a été, je pense jusqu'à un certain point, persécuté par cette génération d'avant le déluge, impie, qui n'a pas voulu l'écouter et qui constitue maintenant des esprits en prison. Et pourquoi il fait ce détour par l'histoire du déluge ? Parce qu'il veut montrer que notre situation est une sorte de correspondance de la situation du déluge. Jésus, d'ailleurs, lui-même l'avait déjà fait. Le déluge est comme une préfiguration de l'époque de la fin des temps dans laquelle se trouve l'Église. Donc je comprends le premier passage, comme déjà Théodore de Bèze, par exemple. Théodore de Bèze comprenait, comme je viens de vous dire, que la prédication que Jésus a faite en esprit, c'est en la personne de Noé qu'elle a eu lieu, et qu'elle a été faite à ceux qui sont maintenant des esprits prisonniers, mais à une époque où c'était des hommes qui insultaient Noé. Oui. Oui, non, mais alors, c'est pour dire que ce verset ne me paraît pas signifier qu'il y a eu une prédication dans le séjour des morts. Voyez. Et quant au deuxième passage, chapitre 4, verset 6, je le comprends de la manière suivante. Je crois que les morts en cause, ce sont les morts chrétiens, ceux qui sont décédés. Et que Pierre, comme on le voit dans la première épître aux Thessaloniciens, Paul le fait aussi, apaise le trouble que les premiers chrétiens connaissaient en voyant certains de leurs frères et sœurs mourir. Parce qu'ils avaient imaginé que le Seigneur Jésus allait revenir tout de suite, que personne ne mourrait, ils ont la vie éternelle, donc ils ne mourraient pas. Et puis, le Seigneur Jésus ne revient pas tout de suite, des gens qui meurent. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont été évangélisés? Qu'est-ce que ça leur rapporte? Et c'est en vue du jugement à venir, dit Pierre. C'est ceux qui sont morts maintenant, vos frères et sœurs décédés, ont entendu l'Évangile au cours de leur vie, pour que, ayant été mis à mort quant à la chair, l'homme extérieur est mort, ils ont subi le sort commun, ils vivent pour Dieu quant à l'esprit. Donc il ne s'agit pas là non plus d'une prédication qui s'est faite après la mort, c'est avant la mort qu'ils ont été évangélisés. Voilà comment je comprends ces passages, et pourquoi donc je ne considère pas qu'on doit les verser dans le dossier d'une seconde chance ou du problème alors de ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile de manière distincte, qui est la majorité de l'humanité. Alors je donne un élément de réponse encore à M. Dougou, et puis après ça, donc je laisse parler Mme Eckert et puis M. Rerich, parce qu'ils demandent la parole depuis un moment. Je crois qu'il y a assez de lumière dans la création et la providence de Dieu pour qu'un homme qui aurait le cœur droit, et pour ça il faut l'œuvre de l'esprit bien sûr, mais l'esprit a pu la faire, pour qu'un homme qui aurait le cœur droit comprenne que le salut ne peut être que par la grâce de Dieu, que par une prise des péchés par Dieu lui-même sur lui, et du coup pour que cette personne, sans savoir précisément le nom de Jésus, mais mettre sa foi en l'œuvre de Jésus, en Dieu par Jésus. Je crois qu'il y a assez de lumière qu'on peut le montrer bibliquement, et que donc Dieu a pu, de cette façon, par cette lumière dans la révélation générale et la providence, où il montre sa grâce. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, il montre de quelle qualité est son amour à tous les humains. Il y a assez de lumière là pour que Dieu puisse s'en servir et toucher à salut un homme au fin fond de l'Asie ou de l'Afrique à une époque où il n'y avait pas de missionnaires. Voilà ce que je crois pouvoir dire. Alors, est-ce que Dieu l'a fait souvent il ne l'a pas fait souvent. Ça, à mon avis, on ne peut pas le trancher. Dans certains cas, d'ailleurs, il a fait plus que ça. Il a utilisé des visions, des révélations spéciales. Le Sadhu Sundar Singh ne s'est pas converti sans qu'il y ait une vision du Christ qui lui soit donnée. Parce que dans certaines cultures, c'est tellement, tellement difficile de sortir de l'habitude. Et je sais qu'il y avait un groupe de chrétiens dans les pays arabes, j'ai lu ça, mais c'était un renseignement qui semblait fiable, qui s'imaginait que pour devenir chrétien, il fallait avoir une vision, un phénomène surnaturel, parce que tous, pour être amenés à la foi, avaient bénéficié de cette façon de faire. Donc je pense que c'est dans un livre d'un certain Gordon que j'ai lu ça, autrefois. Donc je pense que Dieu a pu toucher des humains partout. Nous aurons, je l'espère bien, beaucoup de bonnes surprises quand nous arriverons au ciel. Mais c'est par Jésus-Christ, c'est pas par les œuvres. Bon, Madame Ecker. Oui, alors, ma réponse sera que malgré la suggestion très très forte qui se présente à nous, et bien sûr, je peux penser à des cas, qu'un tel ou un tel n'a pas pu se repentir, avoir le revirement du salut dans ses dernières secondes d'existence, malgré cela, je dis quand même, nous n'en pouvons pas en être sûrs. Heureusement. Heureusement, nous ne pouvons pas en être absolument sûrs. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, je crois que je suis obligé de dire bibliquement qu'il y a des humains qui seront perdus, n'ayant pas accepté au cours de leur vie, et là, pour eux, pas de seconde chance dans les perspectives bibliques. Alors, troisièmement, pourquoi jugement? Parce qu'il faut que ce qui est resté trouble et indistinct sur cette scène terrestre vienne à la lumière, que l'histoire aboutisse à une conclusion parfaitement claire, où la vérité de chaque vie soit pleinement manifestée. Oui, oui, et alors il y a la gradation qui à ce moment-là s'exerce. Oui, oui. Oui, oui. Ben apparemment, puisque la Bible fait la différence, dans la perdition, ce n'est pas sans signification. Alors nous reviendrons sur la question du châtiment éternel dans la dernière des études de la série prévue. Je compte en reparler. Alors, il y a M. Rerich, et puis M. Tout au fond, et puis il faudra peut-être s'arrêter là, parce que c'est à peu près l'heure.
On n'est pas visé, on se dit, ceux qui ont fait le bien, ressusciteront pour la vie, ce sera la première résurrection. Ceux qui ont fait le mal, ressusciteront pour le jugement, ce sera la seconde résurrection après le millénaire.
Oui, oui. Nous reparlerons donc des expressions première et deuxième résurrection, qui se trouvent en Apocalypse 20, mais justement, c'est pour une autre étude, c'est pas pour aujourd'hui. Monsieur ?
Oui. Il me semble qu'on ne peut pas se répéter la parole quand elle dit que tout être humain a connaissance de cette merveille que tu as créée. Oui. À cause de cette connaissance et de sa propre conscience, ça peut moins dire deux motifs pour penser que tout être humain, quel qu'il soit, ne peut pas, ne pas avoir connu Dieu, donc il ne peut pas avoir discuté de passer un jugement.
Oui.
Par rapport même déjà à cette base-là.
Oui, oui. Oui, oui, c'est, en gros, vous dites d'une autre façon, c'est utile, ce que j'essayais de dire. Et dans la révélation générale de Dieu et sa providence, il y a assez de lumière pour que une possibilité de salut soit offerte, et aussi ce qui fonde tout à fait le jugement, ça c'est l'argumentation de Paul en Romains 1 à 3.
Comment vois-tu alors la prédestination?
Bon, alors... Alors ça, c'est pas une petite question. Monsieur Sidamon vous dira qu'il y a toute une série de cassettes de cet institut biblique même, faites il y a quelques années. Je crois que nous avons passé 2 ans sur le sujet de la prédestination à peu près, parce que c'est ça un des grands avantages, outre votre gentillesse, hein, de l'Institut biblique du Tabernacle, c'est qu'on peut prendre le temps. Dans des cours annuels à la faculté, etc., on est obligé de tenir le programme. Mais ici, on prend 2 ans, on prend 3 ans, donc on a le temps. On a le temps d'étudier un sujet, donc c'est ce que nous avons fait pour la prédestination. Et il y a toutes les casettes, parce que M. Sylvamont est le gardien. Bon, je vois qu'il y a encore, mais vraiment, ce sera la fin. Madame Ourcade et M. Patin. Eric.
C'était pour répondre, enfin, non, ça a été répondu, il a été répondu très bien à la question du goût, mais j'avais lu ou entendu, je ne sais plus, que même ceux dont Christian a parlé, Dieu avait la prescience de savoir si on leur avait annoncé, alors ils auraient accepté ou non. Dieu savait.
Oui, oui.
Je ne sais pas où j'ai lu ou entendu quelqu'un.
Oui, il y a des gens qui ont dit ça. Ça ressemble un petit peu au molinisme, à une prétendue solution qui, à mon avis, est sophistique. D'un jésuite espagnol au débat sur la prédestination. Oui. Molina avait forgé une idée qui ressemble un petit peu à ce que Madame Ourcade vient de dire, mais moi je ne suis pas très porté de ce côté-là. Monsieur Éric Patin.
Ma question portait sur l'anticipation du jugement, que sont les jugements exprimés dans l'histoire. Et est-ce que la mort de Christ à cet égard, qui est un châtiment, sans culpabilité, mais qui est un châtiment réel, tu as parlé de la consistance de la réalité, est-ce que la mort de Christ est l'expression d'un jugement dans l'histoire?
Ah oui, alors, tout à fait. Alors là, c'est même plus. Hein. Je n'en ai pas parlé, parce qu'en un sens, c'est le jugement même ayant lieu pour tous ceux qui sont élus à la vie éternelle et qui sont représentés par le Christ qui prend leur châtiment. Donc ça, c'est vraiment le jugement qui a lieu. Oui.
Donc là, c'est vraiment jugé par anticipation.
Oui. Et le mot d'anticipation me paraît même faible à ce moment-là. C'est pour ça que je n'avais pas introduit ce thème, mais je suis prêt à souscrire entièrement à ce que suggère M. Patin. Bon, c'est l'heure. Donc...